Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 1, on va lire du verset 3, aller jusqu'à la fin au verset 31. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel, les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Alors, aujourd'hui, On va demander au Seigneur de bénir ce passage-là parce qu'il est important pour notre foi. Notre Dieu, on vit en ta sainte présence, on veut adorer, nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes en ce jour que tu as toi-même mis à part, Seigneur, pour ton adoration, pour ton service, pour le repos. Et Seigneur, nous voulons t'honorer, Seigneur, en élevant nos âmes vers toi, en découvrant de mieux en mieux, de plus en plus, ta grandeur, ta perfection, tes innombrables attributs qui sont tous infinis. Et Seigneur, on te prie de permettre qu'on comprenne le texte, qu'on acquiert des convictions fortes et qu'on les garde pour tout au long de notre interprétation des Saintes Écritures. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai tout simplement donné comme titre au message d'aujourd'hui « La création en 6 jours de 24 heures ». Alors, on va regarder, avant de vouloir commencer à regarder comment on peut donner de la crédibilité au fait de jour de 24 heures, on va commencer par regarder un petit peu la complexité de l'univers que le Seigneur a fait. J'ai cru bon de le faire parce que plus on va comprendre jusqu'à quel point c'est grand, glorieux, merveilleux, plein de puissance, de majesté et de mystère, plus on va être en mesure de comprendre que faire une chose semblable en 6 jours de 24 heures, plus c'est grand. Et ensuite, on va regarder aussi que la doctrine qu'on dit aujourd'hui, que la création s'est faite en 6 jours de 24 heures, comment elle s'harmonise avec le reste des Écritures dans d'autres passages. Alors, c'est important de faire les trois. Alors, on va regarder d'abord la complexité. Ensuite, on va regarder la crédibilité de l'idée de la création en 6 jours de 24 heures. Et ensuite, on va regarder comment cette idée-là s'harmonise avec l'ensemble des Écritures dans la Bible. Alors, dans notre sermon précédent, ce qu'on avait regardé, c'était que Dieu avait créé tout cela à partir de sa parole, mais ce qu'on appelle en théologie, on va utiliser l'expression « ex nihilo ». Ça veut dire que Dieu a créé à partir de sa parole, à partir du néant. Il n'y avait rien, il a parlé, et toutes ces choses-là sont apparues dans l'ordre qui sont mentionnées ici. Alors, création « ex nihilo », c'est notre première conviction. Alors, création à partir de rien, à partir de la parole toute-puissance de Dieu. On avait aussi remarqué que dès le premier verset des Écritures, il y avait plusieurs grandes philosophies humaines qui étaient complètement démolies, juste par l'affirmation de Genèse 1:1. Et quelles étaient ces choses-là que l'homme souvent va affirmer? L'athéisme. L'athéisme qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Le premier verset des Écritures dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le matérialisme. Le matérialiste qui affirme que la matière est éternelle et qu'elle a toujours existé. Ici, au commencement, Dieu créa les yeux et la terre. Donc, il n'existait pas. Donc, ça défait le matérialisme, ça défait le polythéisme aussi. Ça ne dit pas l'ensemble des dieux qui sont affirmés par les écrits des hommes ou par l'imagination des hommes. Dieu, le Dieu trinitaire, on a vu différents passages la semaine dernière où on voyait que non seulement Dieu le Père, Dieu le Fils était inclus dans la création et Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est le Dieu trinitaire. Il est très bien identifié, pas nécessairement dans le verset 1, mais dans d'autres versets des Écritures où on affirme la participation des personnes de la Trinité. Il y avait aussi l'évolution, qui dit que, bon, il y a eu juste un gros Big Bang, puis qu'après ça, ça s'est développé à partir des choses, sa sortie de la mer, et ça a devenu toutes sortes d'animaux jusqu'aux singes, et ils disent qu'on serait descendant du singe, selon eux. Alors, ça défait aussi cette philosophie humaine-là, et ça défait aussi le panthéisme, qui est très populaire de nos jours, qui est affirmé presque partout dans les livres modernes, où on cherche à identifier l'univers comme étant Dieu lui-même. Alors, ils font l'erreur d'identifier l'univers avec Dieu lui-même. Alors que les Écritures nous disent que Oui, Dieu est présent partout dans son univers qu'il a créé, mais il est à la fois dedans et au-dessus. Alors, eux, ils font l'erreur de dire qu'il est par sa création. Autrement dit, l'être humain, puisqu'il est une partie de la création, ose affirmer dans le Nouvel Âge qu'il est Dieu lui-même. Alors, ça défait toutes ces... juste une phrase dite par le Seigneur défait l'ensemble de ces choses-là. Alors, on a vu que dans le verset 2, ça disait qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux. Alors, ça dit que, dans le fond, il y avait une masse sombre, fluide, qui était incapable d'entretenir la vie, comme un genre de désert, un immense vide. Il fallait donc que le Seigneur amène des conditions idéales à l'apparition de la vie sur Terre. Et qu'est-ce que ça prend pour que la vie apparaisse sur Terre? Ça prenait trois choses. Ça prenait de la lumière, dans le verset 3 et 4. Ça prenait de l'ordre, verset 10, 12 et 18. Et ça prenait, en dernier lieu, l'apparition de la vie elle-même. Alors, on avait également, dans notre leçon de la semaine dernière, rejeté les théories modernes qui donnent priorité à la science sur la parole de Dieu et qui font des compromis importants. Donc, on avait vu qu'on rejetait la théorie de l'intervalle, la théorie de ce qu'on pourrait appeler les jours-époques. C'est justement ce qu'on va essayer de défaire aujourd'hui, parce que beaucoup de théologiens, qu'on pourrait dire libéraux modernes, vont dire que ces jours-là, ça représente des époques de centaines de milliers d'années, de millions d'années, voire de millions d'années. Et on va voir les problèmes que ça amène au point de vue théologique. Alors, il y avait la théorie, il y a les trois théories principales qu'on avait rejetées la semaine dernière. La théorie de l'intervalle, ou en anglais, on appelle ça « gap theory ». Donc, entre le verset 1 et le verset 2, il y aurait Satan qui aurait introduit du désordre dans l'univers. Et la théorie des jours-époques, c'est justement, la théorie des jours-époques affirme que dans tout ce qu'on a lu à partir du verset 3 jusqu'au verset 31, que les jours ne sont pas des jours de 24 heures, mais que les jours sont des genres d'intervalles, des jours-époques, ça le dit, le jour devient une époque, et l'époque est vraiment un nombre X d'années, qui n'est pas, que personne n'ose affirmer avec certitude, mais que, autrement dit, ils disent que, et ça vient s'accommoder avec les théories modernes de l'évolution, et bien entendu, on avait la troisième théorie anti-scripturaire qu'on a rejetée, l'évolution. La plupart des chrétiens qui sont des scientifiques, je vous avais dit la semaine dernière, il ne faut pas avoir peur d'affirmer l'âge, ce qu'on appelle l'âge jeune de la Terre, entre 6 000 et 10 ans, et 10 000 ans en général, parce que si nous, on n'est pas capable de défendre ces positions-là. Je vous avais dit qu'il existe des sites web, il existe beaucoup de littérature, des livres qui ont été écrits par des chrétiens scientifiques qui ont absolument tous les qualificatifs pour être capables de juger de ces choses-là en chimie, en biologie, en paléontologie et toutes les sciences que vous voulez, possibles, imaginables. Il y a des chrétiens qui sont capables de discuter ou de prouver aux pseudo-sciences qui affirme que la Terre, ce serait l'évolution. Alors, faut pas avoir peur de s'affirmer, de dire, moi, j'affirme que la Terre est jeune, moi, j'affirme que c'est des jours de 24 heures. Je ne suis pas nécessairement capable de défendre vraiment avec des scientifiques. Disons qu'il arrivera un scientifique qui est un athée, puis qui veut me dire... Bon, la théorie de l'évolution, et là, lui est ferré en science, il vient me voir, puis là, il me dit, ben là, Marcel, on va discuter de ça. J'avoue que je ne me sens pas à la hauteur, bien humblement, et on n'a pas à avoir honte de ça. Il y a des gens qui sont préparés académiquement pour être capables de défendre leur position. Et c'est une erreur que de croire que notre position s'est basée uniquement sur, comment on appelle ça en anglais, du wishful thinking. Autrement dit, on voudrait que ça soit comme ça, et c'est basé uniquement sur nos désirs. C'est basé sur la science, et Il ne faut pas avoir peur, parce que ça, c'est vraiment le problème des chrétiens du 20e et du 21e siècle. Ça a été d'accorder trop d'importance à ces gens-là. Et aujourd'hui, bien, il s'est développé énormément de véritables croyants qui ont la compétence nécessaire pour démontrer que les théories de l'évolution, la théorie des jours-époques et toutes ces choses-là, la théorie de l'intervalle, c'est faux. Alors, il a fallu 6 jours pour faire de la Terre un lieu habitable et la remplir de toute forme de vie, y compris la vie humaine. Alors, cela, parce qu'à l'intérieur du texte, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, et c'est répété à 6 reprises. Alors, est-ce que le mot « jour », est-ce qu'on peut l'interpréter comme étant des époques, ou si on se doit de conserver la... Parce que quand on parle d'un soir et d'un matin, selon vous, dans votre tête, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque une journée de notre temps à nous. Alors cela, la question que ça soulève, faut-il interpréter le mot « jour » au sens littéral ou la considérer tout simplement comme une figure de style? Alors, avant de répondre à la question et amener les arguments pour défendre notre position de 6 jours, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la complexité de l'univers. Parce que, comme je vous disais tantôt, plus on va comprendre la complexité de l'univers, plus on va être en mesure d'apprécier que le Seigneur ait fait des choses aussi glorieuses, aussi majestueuses, aussi pleines d'intelligence. Alors, on va regarder la complexité de l'univers à plusieurs niveaux. Dans l'infiniment grand, on va commencer par l'infiniment grand. Alors, l'infiniment grand, c'est l'univers dans ses dimensions de planètes, d'étoiles, de galaxies et toutes ces choses-là. Alors, la première illustration qu'on voudrait amener pour démontrer la grandeur de l'univers, on se doit de se rappeler que l'astronomie moderne estime à 200 milliards d'étoiles le nombre d'étoiles dans la seule galaxie appelée la Voie lactée. Alors, nous, on est dans la Voie lactée, la Terre avec tout le système solaire, et cette galaxie-là comprendrait 200 milliards d'étoiles. Alors, un milliard, je vous rappelle que c'est 1 million de billions. 200 milliards d'étoiles. Et, c'est pas tout, il y aurait 100 milliards de galaxies dans l'univers. Ça vous donne-tu une idée de la grandeur de l'univers? C'est vraiment énorme. Alors, on avait dit la semaine dernière, et je vais vous donner d'autres illustrations, que si un ordinateur avait la capacité d'observer 10 millions d'étoiles à la seconde, ça nécessiterait 63 millions d'années pour compter toutes les étoiles. Imaginez, 10 millions à la seconde, puis ça prendrait 63 millions d'années pour toutes les compter. Ça vous donne-tu une idée que quand Dieu dit... Il a fait ça, là, c'est cette grandeur-là. J'ai trouvé dans un livre une illustration très intéressante. Il appelle ça le modèle de la feuille de papier. Autrement dit, on prend une feuille de papier, en voilà une, et on dit que ça représente la distance de la Terre au Soleil. Disons qu'on prend une feuille de papier, puis je vous dis, l'épaisseur de la feuille de papier... Ça représente la distance entre la Terre et le Soleil. OK? On suit jusque-là. Ensuite, faut dire, mais ça représente combien de millions, de mille ou de kilomètres? La distance entre la Terre et le Soleil, c'est 93 millions de mille. Alors, disons que juste pour l'illustration... La distance entre la Terre et le Soleil, on va dire que c'est l'épaisseur d'une feuille de papier, puis ça représente 93 millions de mille. Maintenant, pour représenter la distance à l'étoile la plus proche, on aurait besoin d'une pile de papier de 71 pieds de hauteur. Et il ne faut pas oublier que la feuille représente 93 millions de milles. Pour juste aller de la Terre à l'étoile la plus proche, ça représenterait, autrement dit, 71 pieds, et chaque feuille représente 93 millions de milles. Ça vous donne-tu une petite idée? Et là, c'est l'étoile la plus proche. Pour couvrir le diamètre de notre galaxie de la Voie lactée, on aurait besoin d'une pile de 310 000 de haut, alors que chaque feuille représente 93 millions de milles. C'est assez grand. Maintenant, pour atteindre les limites connues de l'univers, on aurait besoin d'une pile de papier de 31 millions de milles de haut. Imaginez-vous une feuille de papier, et il faudrait en mettre par-dessus pour que ça ait 31 millions de milles de haut et que chaque feuille représente 93 millions de milles de distance. Ça vous donne-tu une idée à quel point on parle de grandeur, là? On parle de l'univers créé par le Seigneur. C'est assez extraordinaire parce que le psaume 147, dans le verset 4 et 5, nous dit que le Seigneur, il compte le nombre des étoiles. Juste avec les mathématiques que je vous ai données, est-ce que vous pourriez me dire le nombre exact des étoiles? Ça pourrait toujours se faire, là, mais on aurait des chiffres qui... Je ne pense pas qu'on... Alors, il compte le nombre des étoiles. Ici, dans le contexte, on parle de Dieu. Dieu compte le nombre des étoiles, et plus que ça, il leur donne à toutes des noms. Je ne sais pas si vous voyez, là. Avant qu'on donne un nom à toutes ces étoiles-là, nous autres, je pense que notre vie ne sera pas suffisamment longue pour qu'on y donne un nom. Et s'il leur donne des noms, bien entendu, ça implique qu'il les connaît et qu'il serait capable de dire, bon, celle-là, c'est ça, celle-là, celle-là, c'est ça. Notre Seigneur, ça dit dans le verset 5 du psaume 147, notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Et ça termine en disant, son intelligence n'a point de limite. Ça, c'est... Moi, je ne sais pas si ça vous fascine d'entendre une chose semblable. Mais quand on est placé devant une personne avec une intelligence nettement supérieure à la nôtre, on se sent petit, hein? Mais imaginez-vous une intelligence qui n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quand on parlait de la sonde, on laisse tomber une sonde, on s'attend à ce qu'un jour, il va y avoir un fond. Mais ça dit, les Écritures nous affirment que Dieu, son intelligence, il n'y en a pas de limite. C'est quelque chose d'assez extraordinaire à comprendre cela. Donc, on vient de s'émerveiller, parce que l'adoration, là, mes amis, c'est tout simplement de s'émerveiller devant qui nous nous trouvons ce matin. On est ici pour l'adorer à cause, justement, de sa toute-puissance dans la création. Maintenant, la grandeur de Dieu dans l'infiniment grand, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais aussi, on peut aller dans l'infiniment petit. Parce qu'on a quelqu'un ici qui est une chimiste, donc elle devrait comprendre plus que la moyenne des ours, ce qu'on pourrait dire. C'est quoi le côté merveilleux de l'infiniment petit? L'atome, le proton, le neutron, et toutes ces choses-là que je suis loin d'être un spécialiste. Mais quand même, l'univers est aussi merveilleux dans le petit que dans... Alors, il est composé d'atomes, d'électrons, de protons, de neutrons. Écoutez bien ça. Sur la pointe d'un stylo à billes, pas gros ça, il y a tant d'atomes que si l'on prenait la comparaison qu'un atome représente un soldat et que cette armée marcherait en rang de 4 de large, ça prendrait 20 000 ans pour voir défiler toute l'armée. C'est assez extraordinaire. Sur le bout d'un crayon à billes, si on représenterait un atome comme un soldat puis qu'il marcherait 4 de large, pour voir défiler tout l'ensemble des soldats, ça prendra 20 000 ans. Ça, c'est le nombre d'atomes qu'il y a sur la pointe d'un stylo à billes. Ça nécessiterait 25 000 milliards de protons pour couvrir l'espace d'un pouce linéaire. Prenez un pouce, c'est pas long, hein? Bien, il y a assez de protons, il y a 25 000 milliards de protons dans cette distance-là. Et il y a autant de protons dans un pouce cubique de cuivre. On est dans la région du cuivre. Prenez un pouce de cuivre cubique, un pouce par un pouce par un pouce. Il y a autant de protons dans un pouce cubique de cuivre que de gouttes d'eau dans l'océan ou de grains de sable sur les plages de l'univers. Alors, autant on s'émerveille devant le grand, autant on peut s'émerveiller devant le petit. Maintenant, le côté énergie qu'il y a dans la création de Dieu. Le physicien Albert Einstein, je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas entendu parler d'Albert Einstein à quelque part, a estimé que l'énergie totale contenue dans une seule goutte d'eau pourrait suffire pour soulever 200 millions de tonnes d'acier à une distance d'un mille au-dessus de la Terre. Vous pensez à ça, là? Vous prenez une goutte d'eau, puis dans la goutte d'eau, il y a suffisamment d'énergie, si on savait la libérer, pour soulever 200 millions de tonnes d'acier à un mille au-dessus de la Terre. C'est fascinant. Fascinant, définitivement. Il y a un autre physicien qui s'appelle Otto Gale, qui a calculé qu'une seule goutte de gasoline, alors une goutte de gaz, on prend une goutte de gaz avec un... Et si elle était pleinement utilisée par un automobile, serait suffisante pour faire un voyage de 400 fois le tour de la Terre, un voyage de 10 millions de milles. Une goutte de gaz, nous on appelle ça du gaz, la gasoline, si elle était pleinement utilisée dans sa potentialité, suffirait pour faire un voyage de 400 fois le tour de la Terre ou un voyage de 10 millions de milles. Ça, c'est l'énergie que le Seigneur a mis dans sa création. Maintenant, on peut s'émerveiller encore davantage avec d'autres mystères qu'il y a dans la création de Dieu. Alors, il y a un éminent scientifique qui a déclaré que l'univers est à la fois inconnu et inconnaissable de façon absolue et exhaustive. Autrement dit, on peut connaître des choses, mais on ne peut jamais connaître l'ensemble de l'univers exhaustif. Ça veut dire que tu es allé jusqu'au bout. On va prendre plusieurs exemples. Ce qu'on appelle les quasars. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la physique, là, vraiment loin de là. Mais ça fait rien, c'est bon de juste exprimer l'idée fondamentale pour que ça nous donne une petite idée. Les quasars sont relativement petits. Cependant, ils produisent plus d'énergie qu'un amas de 10 000 milliards d'étoiles. Alors, je suis loin d'être un spécialiste. Ce qu'on appelle aussi les supernovas. Ce sont des étoiles qui accroissent leur luminosité de plus de 10 millions de fois. Il y a aussi ce qu'on appelle les étoiles à neutrons. Ce sont des étoiles qui ont implosé. On sait qu'exploser, c'est comme ça. Imploser, c'est par en dedans. L'étoile qui explose par en dedans, qu'on pourrait dire. Alors, les forces gravitationnelles écraseraient les atomes en particules nucléaires appelées neutrons. C'est ça qu'on les appelle les étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons aurait une incroyable densité. Une cuillère à thé de sa matière, imaginez une cuillère à thé, c'est pour beaucoup, là. Une cuillère à thé de sa matière, d'une étoile à neutrons, peserait 1 milliard de tonnes sur Terre. Il y a des mystères dans l'univers. Quand on se met à examiner ça, on est étourdi un petit peu. Alors, pour illustrer, disons que si l'on pouvait mettre tous les êtres humains dans une seule goutte d'eau, nous aurions alors une densité semblable à une étoile à neutrons. C'est extraordinaire. Mais on peut aller encore plus loin que ça. Vous avez déjà entendu parler peut-être des trous noirs. Les trous noirs sont produits lorsqu'une étoile implose au-delà du stade de l'étoile à neutrons. Autrement dit, l'implosion va plus loin que celle de l'étoile à neutrons. Sa force gravitationnelle devient alors si forte que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Le trou noir enferme tout ce qui s'en approche, Le trou noir ne peut que grandir et rien ne peut l'empêcher de le faire. Ultimement, un trou noir pourrait avaler toute la matière de notre galaxie. Autrement dit, ça siphonne tout le temps et ça ramasse toute la matière et éventuellement, si Dieu ne mettrait pas un point final à ça, ça serait toute la matière de toutes les galaxies serait absorbée par le trou noir. C'est assez extraordinaire. Ces choses-là, ça dépasse de beaucoup notre capacité de compréhension. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des mystères qui entourent ce qu'on appelle le temps-lumière. Alors, lorsqu'un objet atteint la vitesse de la lumière, disons qu'on voyage, puis tu atteins la vitesse de la lumière, le temps ralentit. Un voyage à bord d'un vaisseau allant à cette vitesse de la lumière, et en passant à la vitesse de la lumière 186 000 milles à la seconde, c'est rapide, ça prendrait 21 ans à ce vaisseau-là pour aller au centre de la Voie lactée. Mais si lui, ça y aurait pris 21 ans, combien de temps il se serait passé sur Terre entre-temps? 50 000 ans. Quelque chose... quand on parle des mystères de la création de Dieu, c'est assez extraordinaire. Maintenant, on va parler un petit peu du mystère du vivant. C'est notre dernière illustration. Ensuite, on va tomber dans notre démonstration du six-jours littéral. Si je vous demandais combien il y a de cellules dans un être humain, il y a 75 000 milliards de cellules dans un être humain. Cependant, il a été démontré que chaque cellule individuelle est plus sophistiquée que l'ordinateur le plus puissant de la Terre. Chaque cellule contient 200 000 milliards d'atomes. Imaginez-vous, on a 75 000 milliards de cellules dans notre corps, puis chaque cellule contient 200 000 milliards d'atomes. Alors, juste notre corps en soi est une merveille de Dieu qui est... Quand on parle d'infiniment grand, ça prend de la puissance pour y travailler dans des grandeurs quand même, mais ça prend énormément d'intelligence pour venir travailler à mettre de l'ordre dans des choses aussi petites. On parle de la longueur totale d'une molécule d'ADN. On entend souvent parler de ça de nos jours, l'ADN. Si on la mettait à bout, elle mesurerait 6 pieds. Si toutes les molécules d'ADN seraient déroulées et mises à bout, la longueur serait l'équivalent d'un voyage de la Terre au Soleil plus de 400 fois. Alors, le psaume 19 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors, on a vu dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, dans le côté énergie, dans le mystère du vivant. Et là, je vous ai cité quelques petites statistiques. J'ai un livre à maison et qui multiplie ce genre de choses-là. C'est extraordinaire. Plus on en lit, plus on est vraiment en... Moi, il arrive un point dans notre esprit où ça ne peut pas être autre chose que de la haute admiration. C'est « wow ». On ne peut pas faire autrement que de faire « wow ». Parce que c'est la création du Seigneur. Maintenant, on parle de crédibilité. Si je vous dis que tout cela a été créé en 6 jours de 24 heures, comment je peux construire mon argumentation pour vous démontrer que c'est vrai? Alors, le dictionnaire définit la crédibilité comme étant le caractère de ce qui est croyable, de ce qui est vraisemblable. Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Prenons-les au mot. Sa parole, c'est la vérité. 2 Timothée 3, 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Et le chapitre 1, bien entendu, de Genèse est compris là-dedans. « Inspirée de Dieu, soufflée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, bien entendu l'homme et la femme, de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est d'une importance capitale pour le chrétien de placer son entière confiance dans la parole de Dieu. et de donner priorité à celle-ci sur la science. Si tu fais l'erreur contraire, dès le début, tu te mets à mettre la science au-dessus des Écritures, c'est sûr que tu vas faire fausse route éventuellement. Mais, autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que l'être humain non régénéré par la parole de Dieu, lui, il va tout faire en son possible, par tous les moyens possibles imaginables, pour évacuer l'idée qu'un jour, il va avoir des comptes à rendre à Dieu. Et pour lui, la théorie de l'évolution, ça fait son affaire. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas Dieu qui a créé, il n'y a pas de Dieu, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Et ça fait plaisir de dire, qui définit le péché? Personne, c'est moi. Alors l'être humain, il se complaît là-dedans. Et il ne faut pas oublier que même les scientifiques, malgré leur intelligence nettement supérieure, sont quand même des êtres irrégénérés et que l'idée de Dieu leur déplaît autant que les êtres humains ignorants. Alors, est-ce important de croire en la création en 6 jours de 24 heures? Moi, je dis, la réponse est un retentissant oui. Voici pourquoi. Parce que ne pas y croire, ça, premièrement, ce que ça fait, c'est que ça dégrade l'attribut de la bonté de Dieu. Il dit, ouais, c'est bien beau, tu affirmes ça, mais comment tu peux le démontrer? Le verset 31 du chapitre 1 de la Genèse affirme avec force. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il avait déjà dit à plusieurs reprises que cela était bon, mais à la fin de l'ensemble du processus de création, il dit, tout cela était très bon, et ça termine en disant, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Maintenant, voici pourquoi ça dégrade l'attribut de la bonté de Dieu. Si Dieu aurait créé le monde sur une période de plusieurs milliards d'années, cela aurait impliqué que Dieu n'eût pas été bon puisque la mort, la maladie et la cruauté et la souffrance auraient existé sur la terre avant la chute d'Adam, qu'on voit décrite dans Genèse 3. Alors, c'est en train de dire, si tu crois à la théorie de l'évolution, du gap theory et toutes les autres, les temps, époques, tu es en train de dire que Dieu a laissé la mort rentrer dans le monde avant la chute. Théologiquement, c'est indéfendable. Mais pourtant, il y a des gens qui défendent cette position-là. Alors, ça vient dégrader l'attribut de la bonté de Dieu. Alors, les Écritures nous le disent, ce fut la chute d'Adam qui amena le péché et la mort dans le monde. Pas rien que la mort chez l'être humain, la mort en général. Donc, si tu crois à la théorie de l'évolution, tu es en train de croire que la mort est entrée dans le monde avant la chute et que ce n'est pas une conséquence du péché. Théologiquement, ça ne tient pas debout. Alors, voyez-vous, dans Genèse 3, versets 16 et 17, ça dit « L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. » Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire qu'il n'y avait pas, la mort n'existait pas avant la chute de l'homme. Et l'évolution, la théorie, le gap theory, la théorie des temps et époques, affirme le contraire. Romains 8, versets 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et qui l'a soumis? Adam. Avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, ça l'amène, alors la croyance en l'évolution et en ces théories-là amène vraiment ça dégrade l'attribut de la bonté de Dieu. Et c'est pas tout. Ça dégrade l'Évangile aussi. Parce que le Nouveau Testament, enseigne clairement que la raison de la mort et de la résurrection de Jésus dépend de la réalité des chapitres 1 à 3 de la Genèse. Ça, je vous dis, quand on commence bien la Genèse, ça va bien aller dans tout le reste de la Bible. Si on commence mal dans la Genèse, on va avoir des problèmes sérieux quelque part à interpréter tout cela. La mort est entrée dans le monde par le péché du premier homme. Ça, c'est une affirmation des Écritures. Alors, tant on dit tantôt les Écritures sont inspirées de Dieu, ou on les croit, ou on ne les croit pas. Ou on laisse la science passer par-dessus ce que la parole affirme, ou on croit ce que le Seigneur dit. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 et 22. « Car puisque la mort est venue par un homme... » 1 Corinthiens, c'est Paul qui parle. Si il croyait que la mort serait apparue avant la chute de l'homme, c'est pas ça que Paul dit, « Car puisque la mort est venue par un homme... » C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Romains, chapitre 5, versets 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voyez-vous, les Écritures parlent de la personne d'Adam comme une réalité, comme une personne historique, et non pas comme un genre de développement à partir de la grenouille jusqu'au singe. Parle de la réalité d'un homme, et elle utilise cette image-là pour parler du second Adam, qui est Jésus-Christ. Verset 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus... Voyez-vous, si on enlève Adam comme réalité d'une personne qui a été créée directement de Dieu, toute la comparaison que les Écritures font entre le premier et le second Adam est détruite. Alors, non seulement ça dégrade l'attribut de la bonté de Dieu, mais ça dégrade l'Évangile elle-même. Alors, dans le verset 20, ça dit « Or, la loi est intervenue avec l'offense abonda, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, on a dit que c'était important parce que ça dégrade les choses de Dieu. Mais aussi, il faut regarder comment les chrétiens de toutes les époques avant nous ont interprété ce passage-là. C'est drôle que ces idées-là, ça a commencé avec à peu près Darwin et cette époque-là, donc 19e siècle. Avant ça, tous les chrétiens comprenaient la Bible de la même façon, Genèse 1. Alors, tout au long de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont compris les six jours de la création comme étant des jours de 24 heures. Il y en a qui ont fait des études, sont allés voir tous les pères de l'Église, ils ont regardé ce qu'ils ont dit sur le sujet. Alors, beaucoup, Basile le Grand, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, les réformateurs, Jean Calvin, Martin Luther et d'autres ont traditionnellement interprété les jours de la création comme étant des jours de 24 heures. Les gens vont dire, ah oui, à partir du début, aller jusqu'à Darwin. Autrement dit, ils sont en train de te laisser dire, à l'époque que les gens étaient ignorants, ils croyaient ça. Mais maintenant qu'on a la lumière de la science, nous, on est capable de comprendre que c'est des faussetés, que c'est qu'ils rêvaient, autrement dit. Alors, on va regarder l'idée pourquoi les jours doivent être des jours de 24 heures. Premièrement, parce que dans l'hébreu, quand vous prenez le mot « jour » et que vous y mettez un qualificatif numéral, comme premier, deuxième, troisième, tu sais, comme on a vu, là, tous les grands hébraïstes, autrement dit, les gens qui connaissent la langue hébreu et qui sont capables de l'interpréter, alors dans les versets, ce fut le premier jour. Voyez-vous, premier, c'est un adjectif numéral. Ce fut le deuxième jour, deuxième. Quand il y a un adjectif numéral qui est relié à un mot comme jour, tous les grands hébraïstes disent que ça veut dire tout simplement un jour. Moïse, est-ce que Moïse croyait que les jours de la Genèse étaient des jours littéraux de 24 heures? Ça, c'est un argument que moi, je trouve extrêmement fort. Exode 20, verset 11. Pourquoi Exode 20, verset 11? Parce que c'est le décalogue. Le décalogue, c'est le commandement de Dieu. La Bible nous dit que Dieu lui-même a donné son décalogue. Donc, il a donné la loi. Et qu'est-ce que ça dit dans ce verset-là? Exode 20, verset 11. « Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et qu'il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Le jour du repos, c'est qui? C'est quel jour aujourd'hui? Dimanche? Est-ce que le jour du repos, c'est une époque ou un jour réel de 24 heures? Alors, il parle dans le même verset qu'il a créé les... Pourquoi le mot « jour » voudrait dire « époque » dans les premiers mots du verset 11 et qu'à la fin, on parle du septième jour comme étant le jour du Seigneur? C'est un des arguments les plus forts. Et en Exode 31, verset 17, ça dit « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre, il s'est reposé. » Il dit que ça va être un signe entre lui et son peuple, que le septième jour, c'est le jour qui va rappeler sa création en ce jour. C'est un signe qui devra durer à perpétuité. Alors, c'est évident qu'on parle de jour de 24 heures. Maintenant, on peut se dire, ben moi, je connais rien dans l'hébreu, puis je ne peux pas savoir si ce que ces hommes-là affirment, c'est vrai. Maintenant, la question suivante a été posée à des érudits et professeurs de langue orientale de plusieurs universités, pas les moins cotées, là. Oxford, Cambridge, Londres, Harvard, Columbia, Toronto, McGill et Manitoba. Et la question était la suivante. Considérez-vous que le mot hébreu « yom », parce que le mot « jour » en hébreu, c'est « yom », tel qu'utilisé dans le premier chapitre de la Genèse et accompagné d'un adjectif numéral, devrait être traduit comme « a », un jour tel que compris ordinairement, « b », une époque, « c », un jour ou une époque sans préférence. Sept de ces universités répondirent que le mot « yom » devrait être traduit par « jour » tel que compris ordinairement. Ce n'est pas des deux de pique, là. C'est des gens qui maîtrisent la langue hébreu et qui se voient placés devant le problème du mot « yom » avec un adjectif numéral et ils répondent en grande majorité que le mot « jour » veut dire 24 heures. Il y a eu d'autres grands théologiens. Je me sers d'un livre à la maison qui s'appelle Edward Young, qui a écrit sur la Genèse, un des grands hébraïstes aussi, qui a étudié le sujet. Benjamin Warfield, qui est un grand théologien aussi, presbytérien, ainsi que d'autres docteurs en théologie et érudits de la langue hébreu, approuvent également que cette idée, que les jours sont des jours de 24 heures. Maintenant, il y a un autre argument. Le premier argument, c'est le mot « jour » utilisé comme adjectif numéral. Le deuxième, les généalogies de Genèse 9 et Genèse 11. Si c'est vrai que c'est des périodes aussi longues que ça, quand on parle de généalogie dans le livre de Genèse 9 et de Genèse 11, il devrait y avoir beaucoup plus de monde qu'eux prétendent qu'il y a eu. Alors, si la théorie de l'évolution est correcte et que les hommes existeraient depuis des millions d'années, il s'ensuivrait qu'il faudrait qu'il y aurait un intervalle de 50 000 ans entre chaque nom de ces deux chapitres. Prenez Genèse 9, Genèse 11, et que pour que ça tienne debout, il faudrait qu'entre chaque nom, il y ait une période de 50 000 ans. Trouvez-vous que ça a du sens? Voyons donc, on parle de généalogie. Fils de, fils de, fils de. Et l'autre, il prétend qu'il y aurait 50 000 ans entre les noms. Ça ne tient pas debout. Autre chose qu'il faut considérer quand on veut interpréter ça correctement, c'est que le livre de la Genèse n'est pas de la poésie, mais de l'histoire. Parce que, et là, je vous dis ça comme ça, sans vouloir aller trop dans les détails, mais quand on prend des livres de personnes qui ont étudié le chapitre 1 de la Genèse, c'est un livre, on pourrait dire, de grande guerre théologique. Parce que, bien sûr, les modernes cherchent à introduire des idées fausses. Alors, c'est pas un livre de poésie. On ne peut pas prendre des mots qui sont utilisés normalement dans notre langage ordinaire, comme « jour », et lui faire dire que ça veut dire 100 000 ans, ou 10 000 ans, ou 50 000 ans. Et il y a un autre argument. C'est l'usage du mot « yom » quand on regarde comment il est utilisé dans d'autres passages des Écritures. Alors, le mot « yom » est utilisé soit au singulier ou soit au pluriel plus de 410 fois en dehors du livre de la Genèse, et il signifie toujours un jour de 24 heures. Ça, c'est fort. Partout le mot « yom » qui est utilisé dans les Écritures, à part, même il dit que ça veut toujours dire « jour ». Et, bien entendu, on le sait que notre modèle de la semaine de séjour vient de ce concept-là. Je pense que... j'en ai assez pour une autre semaine. Je pense que je vais le couper là parce qu'il me restera un troisième point à développer, mais puisque on le terminera une autre fois. Alors, on va prier là-dessus. Seigneur notre Dieu, on vient encore une fois de voir la grandeur infinie de ta création que tu as fait par ta seule parole. Splendeur de ta création dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, dans la quantité d'énergie, dans le vivant aussi, l'ADN et toutes ces choses-là, les cellules du corps humain et les cellules du vivant. Tout cela, Seigneur, démontre la grandeur infinie de ta création. Et bien entendu, Seigneur, il nous faut comprendre et interpréter le premier chapitre de la Genèse correctement, parce qu'on voit qu'il y a des implications théologiques à nos positions. Alors, des implications qui impliquent que la mort serait rentrée avant la chute, c'est énorme comme implication et comme fausseté. Et d'autres implications, Seigneur, si on ne reconnaît pas le personnage historique d'Adam comme premier Adam, comme souvent les Écritures l'utilisent pour parler du salut, et que Christ serait le second Adam. Donc on a péché dans le premier et on est sauvé par le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Bien sûr, Seigneur, tout cela a des implications beaucoup plus grandes que ça n'a l'air à première vue. Donne-nous de garder ces choses-là à l'esprit, Seigneur, et de choisir dès le début du livre de la Genèse, choisir nos positions et les garder tout au long des Écritures, même si on n'est pas toujours capable de défendre nos positions avec des arguments scientifiques. Mais on sait, Seigneur, que tu as mis des hommes sur cette terre qui ont les qualifications nécessaires pour être capables de répondre et de démontrer que les arguments qui sont amenés sont faux et que ce sont plutôt des arguments pseudo-scientifiques. Donne-nous de garder cela à l'esprit, Seigneur, et de t'honorer en donnant foi à ta parole dès les débuts du livre de la Genèse. On te demande ces choses En Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.